Jesús. Se diga son. On va ouvrir la parole de Dieu. Donc aborder des sujets différents de ce dont on a parlé pendant la première partie. Dans la première partie, on est allé dans Néhémie 9. Et là, à un certain moment, les Lévites, c'est ce qu'elle lu Sophie, ont invité le peuple à louer Dieu. Les yeux sont fermés sur les versets qui précédaient. Les versets précédents disaient que pendant 3 heures durant, on avait lu la loi de Dieu devant le peuple, et puis pendant 3 autres heures, le peuple avait confessé son péché, et puis après, les Lévites ont dit, ben, on va louer Dieu maintenant, à l'issue de ce marathon de 6 heures. C'était comme ça que ça s'est passé ce jour-là. Alors, nous allons ouvrir la parole de Dieu, pendant 3 heures, pendant de dire environ. Donc, tu avances à gauche de nous-mêmes, évidemment, hein, pour l'instant, si c'est bien avec cette diapositive. Je vais d'abord donner les limites de la prédication du jour et vous donner un titre. Alors, le culte va être centré sur la personne de Jésus, ce que je veux dire, et pas dans une direction tout à fait différente. Peu importe. Cet été, je me suis penché sur le sermon sur la montagne, je l'ai regardé d'un peu plus près que d'habitude, tel qu'il est raconté dans les chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile de Matthieu, par exemple. Et ce passage commence par 8 affirmations, qu'on a coutume d'appeler les béatitudes. Hein, béatitude, c'est un mot qui vient du latin, d'un mot latin qui signifie bonheur. Les béatitudes parlent de bonheur. Ce sont 8 affirmations du type « Heureux celui qui est ainsi, car il se passera telle chose. » Ou bien, pour certains, il se passe déjà telle chose. Alors, rapidement, je suis tombé sur la 5e béatitude, en Matthieu 5, 7, et dans la traduction « Heureux », il est écrit « Heureux et miséricordieux, car il se tiendra miséricorde. » Donc je me suis dit que je ne savais pas exactement ce qu'était la miséricorde, que le mot n'était plus vraiment utilisé de nos jours. Et dans la prédication, je vais essayer de reconstituer mon travail de réflexion sur ce thème de la miséricorde. Alors d'abord, j'essaierai courtement de définir la miséricorde. Ensuite, je l'illustrerai par différentes lectures bibliques pour essayer de nous rendre concrète la miséricorde. Et enfin, je situerai cette 5e béatitude dans le milieu du sermon sur la montagne, mais évidemment sans traiter les béatitudes qui sont au nombre de 8, et encore moins le sermon sur la montagne qui constitue un sujet bien trop vaste pour une seule prédication. Alors, ce faisant, eh bien, je viens d'annoncer 3 parties dans la prédication. Et si Pedro, tu veux avancer, nous allons voir la première. Qu'est-ce que la miséricorde? Bien avant, je donne un titre à la prédication. Heureux et miséricordieux, point de suspension. À la première partie, Pedro ne bouge pas, donc ça va rien. Première partie donc, qu'est-ce que la miséricorde? La première version pour répondre à cette question, elle va dire le même verset dans la traduction. Ce que j'ai fait pour. Alors la traduction d'Ami propose, c'est la première qui est à gauche dans ma bibliothèque, propose aussi les mots miséricordieux, miséricorde, ce qui m'a pas beaucoup avancé. La Bible du Sommeur écrit heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera heureux. Donc il y a une piste qui se dessine. La Bible en français courant traduit heureux ceux qui ont de la compassion pour lui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Alors, le mot compassion n'est plus lui aussi vraiment utilisé de nos jours. On reviendra tout à l'heure sur ce mot compassion, mais déjà en première approximation, on dira que la miséricorde coïncide plus ou moins avec la bonté. et la réalité d'en bas, des traductions plutôt anciennes qui parlent de miséricorde et des traductions plus récentes qui parlent de bonté. Deuxième essai pour répondre à la question qu'est-ce que la miséricorde ? Eh bien, on regarde dans le dictionnaire. C'est ça, c'est le diapo qui est là. Le dictionnaire Larousse, je fais un peu le prof, m'excuse, mais c'est pour voir de quoi on parle, eh bien, nous donne trois pistes. Première piste, la miséricorde, c'est la pitié. Tiens, la pitié, oui. Qui pousse à pardonner un coupable, à un vaincu, c'est le pardon accordé par pure bonté. Deuxième piste, c'est la disposition à venir en aide à celui qui est dans le besoin. Et troisième piste, c'est un attribut de Dieu qui explique son dessein, c'est-à-dire son plan, c'est-à-dire son projet, son dessein de salut de l'humanité. Donc, je dis parfois un dictionnaire que j'aime bien, que le dictionnaire a mis en ligne les trésors de la langue française, et puis il ouvre une piste qui n'est pas mentionnée par Larousse, si Pedro peut avancer. Et cette piste, c'est que la miséricorde et la compassion pour la misère d'autrui. Alors encore un mot, compassion, qu'on utilise peu, mais celui-ci, il a une étymologie facile. Alors la compassion de quelqu'un, c'est étymologiquement soutenir avec cette personne. Donc la compassion est un mot qu'on utilise peu, mais finalement c'est un mot simple. Avoir de la compassion pour quelqu'un, c'est souffrir avec cette personne. Je résume. Cette première partie qui est assez courte, le mot miséricorde devient plus, vous allez le comprendre, comme synonyme du mot bonté. Je dis que là, on a des traductions qui s'opposent, entre les traductions un peu anciennes déjà, et puis les traductions contemporaines. Ce que ce mot miséricorde, il croise le mot pitié. Je dis bien pitié, pas piété, pitié. Ce qui est un peu plus surprenant, mais on retrouvera le mot pitié plus loin dans la prédication. Il croise aussi le mot compassion. On vient de le voir à l'instant. Et alors maintenant, j'impose une limite de la prédication. Si vous avez ceci sous les yeux, vous voyez que les définitions du mot miséricorde comportent deux aspects. La miséricorde a un lien avec l'exhortation du croyant à la pratiquer. Et puis, la miséricorde de Dieu en lien avec le salut. Alors, je dis que dans la suite, je vais principalement me centrer sur le premier aspect, c'est-à-dire la miséricorde en lien avec l'exhortation du croyant à la pratique. Alors, la première partie est terminée. Donc on va aborder une deuxième qui, par diverses lectures bibliques, va essayer de vous rendre concret l'exercice de la miséricorde, puisque c'est l'axe principal que j'ai choisi. Et cette partie sera, je le dis tout de suite, un peu plus longue que la première. Alors, le coup est là. Voilà, il était là. Je l'ai pris sur l'écran de contrôle. Donc nous avons la deuxième partie, quelques versets qui évoquent l'exercice de la miséricorde. Alors, le Deutéronome est riche en indications concernant votre attitude face aux flux d'ennemis. Alors, à titre d'exemple, il faut faire des choix drastiques parce qu'il y a beaucoup de versets. Deutéronome 23:16, dont la référence est affichée, évoque le droit d'asile. Si un esclave s'enfuit de chez son maître et vient se réfugier dans votre pays, vous ne le ramènerez pas au maître. Il pourra demeurer parmi vous, dans votre pays, à l'endroit qui vous plaira, dans l'île de votre vie où il se trouvera bien, vous l'exploiterez. Deutéronome 24:14 poursuit dans le même sens. Tu n'exploiteras pas l'ouvrier journalier qui est dans la même condition ou pauvre, qu'il s'agisse d'un Israélite ou d'un immigré habitant chez toi dans son pays. Le verset 17 du même chapitre élargit ensuite
le champ d'exercice de la miséricorde. Tu ne fausseras pas le cours de la justice au détriment d'un immigré, d'un orphelin, et tu ne prendras pas le vêtement d'une veuve. Et là, on trouve le triptyque qui est fréquent dans l'Ancien Testament, le traduit vis-à-vis de l'immigré, de l'orphelin et de la veuve. Alors, auprès de qui peut s'exercer la compassion? Et bien, au-delà du verset, potentiellement, elle peut s'exercer auprès de tous ceux qui sont dans la misère à portée de notre regard. Et notre regard, il va très loin avec les moyens de communication modernes. Auprès de qui peut s'organiser l'aide à celui qui est dans le besoin? Ben, potentiellement, auprès de tous ceux qui sont dans le besoin à portée de notre regard. Cela dit, les versets qu'on vient de lire à ceux qui vont suivre placent à portée de notre regard ce trio particulier de l'immigré, de l'orphelin et de la veuve. Alors, un rapide commentaire. On ne peut qu'être frappé par l'actualité de ces commandements. C'est ma réaction, du moins. Que ce soit le droit à la justice pour les immigrés, et aussi les orphelins et les veuves, ou bien le droit d'asile. Les considérations précédentes, à mon avis, pourraient apporter un éclairage, alors que notre pays et l'Europe plus généralement s'interrogent sur la place de l'immigration en général, s'interrogent aussi sur l'accueil des mineurs isolés, qui est un sujet sensible dans notre pays, sur l'accueil des ressortissants de pays en guerre, ukrainiens, mais pas seulement, même si les interrogations sont plus rares dans notre pays concernant les citoyens ukrainiens. Fin de commentaire. Alors, au sujet de la miséricorde, et pour revenir à la parole de Dieu, eh bien, les prophètes vont tout à fait dans le même sens que ce qui est prescrit par la loi mosaïque dans le passage qu'on vient de lire. Alors là, ils ont encore fait des choix un peu drastiques. Moi, j'ai choisi de vous lire un verset quelques versets dans Ésaïe. Ésaïe 58, je le cherche. J'ai des problèmes de vue en ce moment. Donc, ne soyez pas étonnés si je prends mon temps. Je cherche et je trouve. Le film, le jeune avec un accent circonflexe, le film qui me plaît, qui est éternel, est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les pouvoirs de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime, et à briser toute espèce de joug. Il détaille. C'est partager le pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans-abri. C'est donner des habits à celui qu'on voit nu, ne pas lui détourner de ton prochain. Alors, comme l'orage dira la lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite, la justice marchera devant toi. Et la lumière de l'Éternel sera la bonne garde. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira, je suis là. Je continue deux versets. Si l'idée de toi, tu supprimes le joug de l'oppression, les gestes menaçants et les propos méchants, si tu donnes ton pain à celui qui a faim, si tu pourras au besoin de l'opprimé, la lumière brillera pour toi au milieu des ténèbres et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi et l'Éternel sera ton guide constamment. Alors ces versets nous parlent de libération, de partage du pain, de partage du toit, c'est-à-dire d'hospitalité, Et cette exhortation est assortie de promesses à la fin du passage que j'ai lu, de promesses de bénédiction de la part de l'Éternel. Zacharie ne dit rien d'autre au chapitre 7, verset 10. Il dit « N'exploitez pas la veuve et l'orphelin, ni l'immigré, et ceux qui sont dans le besoin, ne tramez aucun mal les uns contre les autres. » Et là, on retrouve le trio de la veuve, de l'orphelin et de l'immigré. On pourrait ajouter cette parole aussi, vous avez peut-être en tête, le Job. Job, au chapitre 31, explique qu'il a pratiqué la miséricorde en direction des pauvres, des veuves, des orphelins, des indigents. Un indigent est une personne qui manque des choses les plus nécessaires à la vie, des nécessités. Et il a dit qu'il redoutait un châtiment de Dieu, sous-entendu, s'il n'avait pas pratiqué ces choses. Et comme on sait, ou comme on peut s'en douter, le Nouveau Testament est, pour se limiter, notamment ce qui est rapporté du comportement de Jésus, a quelque chose à nous apprendre au sujet de la miséricorde. Dans la première lecture, dans Matthieu, et que je vous remercie que nous sommes au sortir du sermon fermé en même, Matthieu chapitre 9, versets 35 et 36, on le réveille. Miséricorde va se lancer, mais on est vraiment dans le sujet, vous allez voir, qui nous occupe. Matthieu 35, 36, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour y donner son enseignement dans les synagogues. Il proclamait la bonne nouvelle du règne de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elle, car ces gens étaient inquiets et abattus comme des brebis sans berger. Ce passage nous dit, on retrouvera l'expression, que Jésus fut pris de pitié pour les foules. Que faisait-il? Il proclamait, lui, la bonne nouvelle, guérissait toute maladie. Alors, ouvrons une parenthèse. Moi, j'avais depuis longtemps l'impression qu'en parlant de Christ, faute de rencontrer le mot miséricorde, on trouvait plutôt le mot compassion. Alors, j'ai regardé dans les évangiles, en mettant une concordance, et j'ai vu que là où ce mot traduit de compassion, la Bible du Sauveur traduit, comme je viens de lire, pris de pitié. Donc, en première approximation, on va considérer que les expressions émues de compassion et pris de pitié, notamment quand on parle de Jésus et de son ministère terrestre, que ces deux expressions émues de compassion et pris de pitié sont synonymes. Alors, c'est ce que nous confirme le dictionnaire à ligne 13 de la langue française qui écrit « La compassion, c'est le sentiment qui incline à partager les maux et les souffrances d'autrui. Et les compassions, ce sont les manifestations de la pitié. » Alors, j'ai vu souvent pris de pitié pour les malades et il est guéri. Rencontrant deux aveugles, pris de pitié pour eux, Jésus leur toucha les yeux, aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Matthieu 23. Rencontrant un lépreux, Jésus prit de pitié pour lui, tendit la main, le toucha et dit, oui, je le veux, sois pur. À l'instant même, la lèpre le quitta, il fut pur. Marc 1, 41-40. Jésus fut également pris de pitié pour les veuves affligées. Ainsi, Luc 7, 13 à 15, raconte qu'il fut pris de pitié pour cette veuve qui conduisait le combat funèbre de son fils unique et qu'il rendit le fils restitué à sa mère. Et enfin, pour ne pas multiplier les exemples, on peut signaler que par deux fois au moins, comme c'est raconté dans Marc, mais pas que, Jésus fut pris de pitié pour deux foules immenses d'affamés et qu'il les nourrit miraculeusement. Premièrement, Jésus a pitié de toutes ces personnes, et deuxièmement, il agit pour les soulager. Alors, il est donc important de remarquer que pour Jésus, mais aussi pour nous, par conséquent, l'un des prochains passe d'abord par la pitié, qui est une forme d'identification avec notre prochain, par la compassion donc, et notre pitié débouche ensuite sur une aide pratique. Autrement dit, dans le domaine de l'aide au prochain, l'être précède le faire. L'être précède le faire. Alors, la deuxième partie se termine ici. Je vous propose, avant d'aborder la troisième, de prier quelques instants d'ores et déjà. Seigneur, nous avons vu que les passages mentionnant l'exercice de la miséricorde sont nombreux dans la Bible. Ces passages constituent pour nous autant d'exhortations à exercer la miséricorde et en cela tu nous as montré l'exemple. Nous te prions, Seigneur, que tu mettes toi-même en nous une attitude de miséricorde dans nos cœurs et que dans ce domaine tu remplaces nos cœurs de pierre par des cœurs de chair, selon l'expression d'Ézéchiel. Nous te prions aussi que tu nous donnes du discernement pour reconnaître la misère et la souffrance autour de nous, et la force pour apporter, selon les circonstances que tu créeras toi-même, l'aide, le soutien qui répondra aux besoins que nous rencontrons autour de nous. Que cette souffrance et cette misère soient physiques, morales ou sociales. Nous te prions enfin que tu nous donnes d'exercer la miséricorde, non pas pour en tirer une gloire personnelle, mais pour la manifestation, dans l'entourage où tu nous as placés, de ta propre gloire. Amen. Nous allons maintenant, dans une troisième partie, et comme annoncé au début de la prédication, replacer ce qui a été dit dans le début du sermon sur la montagne. La troisième partie, donc, c'est la miséricorde en lien avec les béatitudes et le début du sermon sur la montagne. Alors, le chapitre 5 à 7 de l'évangile de Matthieu rapporte un enseignement que, d'après le texte, Jésus donna sur une montagne, enseignement qui est connu sous le nom du sermon sur la montagne. Alors, la plupart des commentateurs disent qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'un mini-sermon que Jésus donna, mais plutôt du résumé d'un ensemble d'enseignements donnés sur une période assez longue. Nous allons lire le début du sermon sur la montagne dans sa version Matthieu, et donc nous allons lire en deux fois. Donc si Pedro peut envoyer la... Je ne peux pas dire ce qui est écrit, donc en principe, vous pouvez avoir quelque chose qui fait allusion à Matthieu 5, 1 à 10. Alors, premièrement, nous lisons les 10 premiers versets de Matthieu 5. Voyant ces foules, Jésus monta sur une colline, il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui, et il se mit à les enseigner. Et lui leur dit. Et c'est là que commence ce qu'on appelle traditionnellement les béatitudes. Béatitudes, bonheur, on l'a dit au début. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Je lis dans la version de ce verset. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon avec eux. Heureux les miséricordieux, car Dieu leur sera miséricorde. Heureux ceux dans le cœur de Dieu, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répondent de Dieu d'après, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Et ça continue un peu, au-delà, c'est l'explicitation de ce dernier verset.
dans une phrase qu'on appelle les béatitudes, toutes construites de la même façon. Heureux celui qui est ainsi car il surpassera telle chose au futur. Ou bien, heureux celui qui est ainsi car il surpasse d'ores et déjà telle chose au présent. Alors plus précisément, le présent pour la première et la dernière béatitude et le futur pour les six autres. Alors la première et la dernière, justement, celles qui sont au présent, nous parlent du royaume de Dieu. Verset 3. Heureux ceux qui se révèlent spirituellement pauvres car le royaume des cieux leur appartient, c'est la première. Et verset 10. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice car le royaume des cieux leur appartient, c'est la huitième. Les personnes auxquelles s'adressent les béatitudes sont des citoyens du royaume des cieux. C'est-à-dire que ce sont des chrétiens. Même si le verset 1 précise que Jésus s'adressait à des foules qui, à coup sûr, n'étaient pas constituées uniquement de chrétiens, les béatitudes s'adressent aux citoyens du royaume des cieux, c'est-à-dire s'adressent aux chrétiens. Et ces citoyens auxquels s'adressent les béatitudes possèdent déjà le royaume des cieux. Le royaume des cieux leur appartient. Et les béatitudes décrivent un projet de vie pour les chrétiens. Et ce projet de vie, c'est un projet de bonheur, marqué par le mot « heureux » qui se trouve au début de chaque verset. Alors, ce bonheur n'est pas celui que propose le monde. Mais si on regarde les béatitudes, et si on regarde les bénédictions qui s'y trouvent et qui constituent ce projet de bonheur, on voit que Dieu les consolera. On voit que Dieu leur donnera la terre en héritage. On voit qu'ils seront rassasiés. On voit que Dieu sera bon pour eux. On voit qu'ils verront Dieu. On voit que Dieu les reconnaîtra pour ses fils et ses filles. Voilà le projet de bonheur contenu dans les béatitudes. Alors, si ces béatitudes sont écrites au futur, est-ce que ça veut dire que ce projet de bonheur, il est pour plus tard, voire uniquement pour la fin du temps? Non, pas seulement. Les citoyens du royaume des cieux le possèdent d'ores et déjà. Et on sait que cette possession est définitive et irrévocable. Les bénédictions qui vont avec sont déjà disponibles, simplement, elles seront parfaitement complètes dans le futur, au recul de Christ. Alors un point qui a agité les commentateurs pendant de longues périodes, certains se sont demandé si les béatitudes n'allaient pas dans le sens de salut par les œuvres. Premièrement, celui dont il est héritage, justement. Matthieu écrit heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Est-ce que dans le sens verset, il faut voir un lien de cause à effet? Donc on peut faire que pour obtenir la miséricorde de Dieu en particulier, il serait nécessaire d'exercer soi-même la miséricorde dans notre entourage. Alors, si cette compréhension était la bonne, on serait en marche sur le chemin de salut par les œuvres, ce qui serait en contradiction absolue, absolue, avec l'enseignement général de la Bible et notamment avec les écrits de Paul. Alors, comment concilier cette apparente contradiction? Alfred Kuhn cite John Stott, un autre commentateur qui est souvent cité à ce pupitre. Et ce dernier, John Stott, considère la première béatitude, heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux leur appartient, il déclare qu'elle proclame justement le salut par grâce. Et non par les œuvres, car elle promet le salut au bon esprit, le salut à ceux qui se révèlent spirituellement pauvres, à ceux donc qui n'ont pas conscience de leur dénuement, rien à offrir en plus de mérite. À chacune, rappelle quelque chose qui m'a éclairé aussi. Il rappelle que l'enseignement de la Bible a toujours deux aspects. Un aspect doctrinal.
éthique, c'est-à-dire pour faire vite, qui a trait à la morale. Et il ajoute que les béatitudes relèvent non pas de la doctrine, mais de l'éthique. Elles décrivent le comportement attendu par Dieu de ceux qui se sont placés sous sa grâce pour être sauvés. Alfred Kuhn ajoute que, je le cite, Jésus n'a pas seulement proclamé que par lui et à travers lui le royaume s'était approché, mais il a également expliqué à ses disciples quel est l'idéal de vie dans ce royaume, quel est le projet de vie dans ce royaume. Dernière question, sommes-nous tous concernés par les huit béatitudes? Ou bien les béatitudes décrivent-elles huit groupes de chrétiens? Certains qui se laissent mortellement pauvres, d'autres qui pleureraient, d'autres qui seraient humbles, etc. John Stott dit non. Il écrit, les béatitudes font apparaître les multiples facettes d'une personne chrétienne équilibrée. C'est-à-dire, nous devons tous montrer toutes ces facettes. Elles tracent huit traits qui devraient caractériser les chrétiens et les chrétiens plus loin. Ce ne sont pas les traits d'une élite ou d'une aristocratie spirituelle qui sortirait du monde des chrétiens. Au contraire, dans les béatitudes, Jésus dépeint ce qui devrait en être de tout chrétien et de tous ses disciples. Alors avant de prier à nouveau et de terminer, je vous lis un dernier verset. Je ne sais pas si la référence est affichée, je me souviens plus. Colossiens 3, 12. Ainsi, puisque vous avez choisi pour lui appartenir, ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir, et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience, d'ardente bonté. D'autres traductions, donc on a dit que bonté était considérée comme synonyme de miséricorde, hein, je le rappelle. D'autres traductions plus anciennes, Barbi II par exemple, écrit remontez-vous d'entrave de miséricorde, d'entrave de bonté, d'entrave d'humilité, etc., de douceur, de patience. Alors, je tiens à ce que les anciens situaient les sentiments dans les entrailles du corps, au plus profond du corps. D'où cette expression curieuse ou imagée, ne dit-on pas ça me prend triste, par exemple, cette expression curieuse mais imagée, qui ne nous parle plus beaucoup et qui est conforme à l'image qui nous est laissée ici. Nous allons prier pour toi. Seigneur, tu nous as laissé dans le sermon sur la montagne l'expression d'un projet de vie. Un projet marqué par le bonheur d'en haut que tu as en réserve pour nous. Nous te prions que tu nous fasses la grâce, chacun d'entre nous, d'entrer dans ce projet de vie. Et avec ton aide, de nous appliquer à vivre en accord avec ce projet. Pour ce qui concerne spécifiquement la miséricorde, l'objet de la prédication de ce matin, nous te prions pour que tu nous donnes ce que ta parole appelle parfois des entrailles de miséricorde. Pour l'étranger, pour la veuve, pour l'orphelin, pour l'indigent, pour le nécessiteux. Bref, pour celui qui a un besoin vital non satisfait. Et que tu nous donnes ainsi le moyen d'aider notre prochain en lui apportant ce dont il a besoin pour vivre mieux. Amen.